Frédéric, sur enfin, une des questions qui a quand même parcouru tous les débats, c'est...
Tiens, il y a des anciens qui...
une des questions, me semble-t-il... Alors, c'est incroyable, lui.
D'une nouvelle génération de fonctionnaires, l'ancien, on
en aurait voulu. Pardon. Oui, une des questions qui a parcouru nos débats, c'est finalement la question de l'ensemble lié. C'est-à-dire, au fond, on a plus ou moins les techniques, on sait faire, mais finalement, à la fois, il y a une question de maîtrise d'ouvrage, mais aussi une question de construction de la filière, tu vois, d'intégration de la filière. Alors, comment est-ce que vous jouez ça, vous, et quelles sont vos capacités, à la fois techniques, politiques, juridiques, vos marges de manœuvre, et les points sur quoi vous butez aussi?
J'allais dire que la réponse que je ferai est un petit peu provocante, mais effectivement, comme d'habitude, tout retombera toujours sur l'élu local. Alors, géométrie variable en ce qui concerne l'échelle du territoire, mais il y a un moment donné, pourquoi? Parce que justement, si on parle de compétences, il les a toutes. Il a la clause générale de compétences, la collectivité territoriale, en tout cas, pour l'instant. Et c'est bien justement, et non seulement... Il a juridiquement cette possibilité-là, et il a l'habitude historique de s'organiser au local pour pouvoir gérer les divers problèmes multiples et variés qui se présentent à lui. Donc l'élu local, encore une fois avec les réserves qui s'attachent à quelle échelle est-ce qu'il exerce, municipal, intercommunal, départemental, régional, mais en tout cas l'élu d'une collectivité territoriale, il a vocation à s'occuper de ces problèmes-là dans son ensemble. Pourquoi? Parce que c'est lui qui élabore, qui porte et qui met en œuvre le projet politique de territoire. Et que le boulot de l'élu, c'est de rendre le changement désirable. Et d'organiser tous les acteurs, tous, les professionnels, les associations, les habitants, ses services, etc. Et les autres partenaires publics, autour d'un projet politique de territoire partagé. Tout simplement pragmatique, enfin qu'on peut mettre en œuvre. C'est une culture du compromis, forcément. C'est une culture du pragmatisme, c'est une culture du compromis. Donc l'élu local et la collectivité, elle doit dépasser tous les fétichismes, dépasser toutes les fausses bonnes idées et composer avec ce qui fait la richesse et la difficulté de la démocratie, c'est-à-dire l'expression incessante de tous les points de vue et la confrontation de tous les intérêts divergents. Il faut trouver un moyen pour que ça se réalise. Alors, je voudrais juste illustrer mon propos par cette question de l'énergie. On m'a demandé de réfléchir sur quelles sont les réelles compétences du local en matière énergétique. C'est une question qui a déjà été débattue lors du séminaire le séminaire 5 des 11 et 12 juin dernier. Mais quelque part, j'ai envie d'y revenir parce qu'on a écarté cette question un peu rapidement, peut-être, parce qu'on n'en a pas beaucoup reparlé, alors que c'est l'illustration de la façon dont s'exerce la multicompétence des collectivités locales, et c'est une illustration de la gouvernance qu'elles sont capables de générer sur ces sujets complexes. Je voudrais revenir là-dessus. Donc, du coup, je rappelle que le débat avait montré des facettes extrêmement divergentes. On avait le volontarisme politique le plus abouti avec Denis Baupin, où le plan climat va les projets de territoire, puis de l'autre côté on avait Rémi Prud'homme, pour qui, je le cite, du point de vue de l'intérêt socio-économique général et du développement des territoires, la réponse à la question posée paraît négative, c'est-à-dire est-ce que la stratégie territoriale en matière d'énergie c'est une réponse pertinente aux défis énergétiques? Lui disait carrément non. Mais l'apparence de l'action dans un domaine est susceptible de rapporter des voix aux élus locaux et cette considération pèse plus lourd que la précédente. Ferme les dents.
Claire m'a dit que j'aurais pas dû l'inviter.
Non, mais au contraire, parce que moi, c'est qu'il faut valoriser les autres. C'est quelqu'un qui m'a fait énormément réfléchir, du coup. Ouais. Après tout, effectivement, est-ce qu'on n'est pas là en train de s'agiter sur des questions électoralistes? La vraie stratégie, elle est ailleurs, au niveau national, international, économique, etc. Et en fait, ça m'a obligé à me poser les questions, et la réponse est mais non. Parce que au-delà des antagonismes politiques, Baupin, Vert, Prud'homme, écrit dans le Figaro, enfin bref, Ce qui semble intéressant à souligner, c'est justement que tous les exposés durant ces séminaires abordaient à un moment ou à un autre la question de la gouvernance. Et parce qu'il plane dans nos échanges l'intuition que le défi énergétique qui est devant nous porte en lui le risque d'une impasse démocratique, tout simplement. À force de parler du climat, on oublie les gens et on oublie les libertés individuelles, etc. Parce que, en fait, la multiplication des normes, des règles, des contraintes, des labels, des contrôles, etc., de tout ce qui est issu d'une société qui va devenir de plus en plus fortement administrée en réponse à la crise énergétique, ben, forcément, si on veut rester dans notre éthique démocratique, ça appelle une nouvelle forme de gouvernance. Et l'élu local, j'ai la faiblesse de le penser par expérience, mais aussi par nécessité, est convaincu que c'est à l'échelon local qu'on organise cette gouvernance efficace pour implémenter le changement. Alors Michel Delbar disait, en parlant du pacte des maires, c'est une contribution des acteurs locaux pour plus de 300 villes européennes, en fait, se sont engagées dans un processus pour aller au-delà de la fameuse règle des 3x20. Et Michel Delbar disait, cela renforce ma conviction que quel que soit l'engagement des États, c'est bien à nous, élus territoriaux, d'aller sur le terrain vers le facteur 4. Donc, qu'on dénie aux élus locaux la compétence de peser sur le débat en matière énergétique, pour moi, c'est un non-sens. Au contraire, c'est au local que les choses vont se passer, certainement, entre autres. Alors, vu comme ça, effectivement, on se pose moins la question énergétique en termes de compétences, plutôt en termes de responsabilité. En fait, toutes les politiques locales ont des répercussions en matière énergétique. Toutes. Et comme on a quasiment toutes les compétences, ça fait beaucoup, quand même. Donc, parce que, bon, bien sûr, on consomme de l'énergie, hein, les collectivités consomment de l'énergie, le bâtiment public, parc de véhicules, éclairage, etc. Elles sont maîtres d'ouvrage, on vient de le rappeler, c'est énorme. Maîtres d'ouvrage, elles sont aménageuses. C'est-à-dire que les infrastructures publiques, les opérations de logement, tout ce qui est en faveur du développement économique local, selon les répartitions communales, intercommunales, départementales, régionales, etc., ce sont elles qui les impulsent. Elles sont incitatrices, elles sensibilisent les administrés aux économies d'énergie, elles financent des dispositifs qui vont dans ce sens-là, et elles sont productrices et distributrices d'énergie, et c'est là que le terme compétence en matière énergétique peut prendre un sens littéral. Et c'est intéressant d'y revenir. On l'a évacué un peu vite, mais c'est intéressant d'y revenir parce que c'est une très très vieille compétence historique. Ça date de 1884 et 1906, c'est l'électricité, hein, c'est les communes qui géraient les services publics locaux, donc le gaz et l'électricité, et qui faisait ça par la concession. Donc c'est une vieille habitude aussi de partenariat public-privé. Je le rappelle, on parlait de réinvention de l'eau chaude. Oui, on est dans la réinvention de l'eau chaude, effectivement, à chaque fois. Et la deuxième étape, c'est la loi de juillet 80 qui leur a permis de gérer les réseaux de chaleur et d'instaurer le service public local optionnel de distribution de l'énergie calorifique. Et ensuite, ce sont les deux dernières lois, 2000 et 2005, qui peuvent leur permettre d'être maître d'ouvrage de centrales de génération électrique à base d'énergie renouvelable. Donc en fait, historiquement, les collectivités territoriales, elles ont puissamment contribué à bâtir la politique énergétique sur leur territoire. Et elles l'ont fait, non pas pour des questions de climat, des questions d'environnement ou je ne sais pas quoi, elles l'ont fait pour des questions de développement local. Et ça, c'est une entrée intéressante pour penser le problème. Et là, aujourd'hui, ben, comme on est sorti de la parenthèse du monopole d'État, on peut penser que les collectivités locales vont vouloir redevenir un acteur important, se ressaisir de ces questions énergétiques, bon, au moins sur le marché des infrastructures, parce que sur le marché des services, il est complètement verrouillé, puisque... il est tenu à l'écart du jeu concurrentiel. Donc, en fait, le problème, c'est que quand on... Ça, c'est la théorie. Et puis, quand on veut passer à la pratique, moi, je peux vous donner des exemples. Par exemple, si on veut couvrir le toit d'un bâtiment public par une centrale de production d'électricité, à partir de panneaux photovoltaïques, ça suppose de maîtriser une sorte de course d'obstacles incroyables qu'est le montage juridico-administratif de ce genre d'opération. Donc ça veut dire, quand on parlait de compétences à l'intérieur des collectivités territoriales, aujourd'hui on a les polytechniciens, les énarques, etc. Et on est obligé de les avoir parce que la complexité des partenariats devient absolument telle qu'il nous faut des gens qui ne font que ça. Je parlais aussi de l'inflation réglementaire en termes de droit d'urbanisme, etc. Ça suppose... et d'engager des cabinets extérieurs et d'avoir à l'intérieur les juristes solidement charpentés pour pouvoir dialoguer de manière efficace. Donc voilà, je vous passe l'exemple total, mais enfin, j'ai, quand même des notes de 14 pages pour savoir comment est-ce qu'on va monter les panneaux sur le toit, machin, et qui et pourquoi, parce que tout simplement, un certain nombre de juristes dénient à la collectivité locale, qui est la communauté urbaine, de produire l'électricité. Ces notions juridiques de production d'énergie par les collectivités ne sont pas stables juridiquement. C'est ça le problème. Donc, mais d'un autre côté, ça nous arrange un petit peu parce que, du coup, on estime que la production d'énergie n'est pas un service public local, mais ça nous arrange parce que, du coup, on échappe à un certain nombre de contraintes en matière de marché public qu'on préfère. Donc, ça nous permet de passer notre partenariat public-privé de manière un peu plus simple. Donc on sait jouer de ces failles, de ces contradictions. Parce qu'on a les compétences.
C'est pour ça que ça marche.
Voilà.
C'est pour ça que ça
marche. Voilà, j'en parlais. C'est l'illustration.
Et pourtant, ça marche.
Et pourtant,
oui.
Ça marche.
D'accord.
C'est parce que.
Normalement, ça ne devrait pas marcher.
Ça devrait pas marcher. Oui. Parce qu'on a, à l'intérieur des collectivités, récupéré les compétences qui venaient effectivement avant, qui étaient dans les services de l'État, qui étaient dans le privé, etc. De plus en plus, récupéré les compétences qui font qu'on sait intelligemment, quand on veut se mettre d'accord, on y arrive. Voilà. Avec le privé, quand on veut se mettre d'accord, on y arrive. Donc, de toute façon, on sait que l'environnement juridique est instable, mais les élus locaux, ils n'ont pas le choix, ils font quand même. Ils sont obligés de faire quand même, parce que sinon, personne ne fera leur place, et ils le savent très bien. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent justement assumer le risque, à la fois juridique, à la fois économique. Le privé ne le fera pas. Juridique, le privé ne le fera pas. Donc, par contre, quand les élus locaux collectivement décident d'y aller, malgré le risque, ben, ils y vont. Ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Alors, on se dit que ça, c'est pas intéressant de le faire sur un coup, one shot. C'est intéressant d'avoir une politique énergétique. Et pour avoir une politique énergétique, il faut un outil pérenne. Donc, généralement, les collectivités, enfin souvent les collectivités, elles essayent de défricher des partenariats pérennes au travers de l'économie mixte. Parce que c'est la manière la plus efficace et la plus vertueuse de gérer ces problèmes-là. Donc, sur l'énergie, par exemple, on aura une société d'économie mixte, alors avec EDF au capital, parce qu'il faut l'expertise aussi, et un industriel national pour pallier l'inconvénient, tout simplement, du fait que nos solutions énergétiques, pour diversifier l'approvisionnement énergétique, elles auront une rentabilité économique beaucoup plus faible qu'au sud de la Loire, parce que, par exemple, si on veut poser des panneaux, ils ont 30% de rendement en moins au nord de la Loire qu'au sud, donc les industriels tout seuls, ils n'iront pas parce que c'est pas rentable. Donc il faut que la collectivité publique, elle arrive pour sécuriser les investissements, aider, etc. Donc un partage des risques à 50-50, la garantie du rachat d'électricité par EDF à un tarif bonifié qui tient compte de la situation géographique, tout ça, ce sont des conditions nécessaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on, quelque part, on aligne tous les acteurs derrière un projet adapté à la géographie, aux conditions locales. Et ça, c'est ce que savent faire les élus locaux.
C'est ce qu'ils sont censés savoir faire.
C'est ce qu'ils font. Chez moi, c'est ce qu'ils font.
C'est ce que savent faire les élus brestois, d'accord.
Par exemple.
Et en Loire-Atlantique aussi.
Voilà. Et un autre exemple qui montre comment ça, c'est aussi une organisation, parce que là, on parle de photovoltaïque, c'est neuf, c'est nouveau, c'est joli, etc. Bon, il y a un truc très ancien qui s'appelle... la gestion des déchets. La gestion des déchets, c'est exactement le même problème que l'énergie. Il y a une échelle qui dépasse les limites administratives de gouvernance des territoires. Genre un plan déchets, ça se gère au minimum au niveau départemental, au minimum. Hein. Et donc, il y a des problèmes d'investissement d'infrastructures extrêmement lourds. Donc, là aussi, il faut générer de la capacité à investir. Donc, par exemple, dès les années 80, il y a à Brest une usine d'incinération des ordures ménagères et qui, dès le départ, a alimenté un réseau de chaleur. Et ce réseau de chaleur est concédé en DSP, concédé au privé. Voilà. Donc, cette installation, c'est cette vieille installation, entre guillemets, qui, demain, sera le support d'une nouvelle production électrique parce qu'on va la coupler à un dispositif de cogénération. Par turbine vapeur. Donc, en fait, si l'objectif de réduction des déchets à la source se poursuit, parce que les collectivités locales œuvrent en ce sens aussi, hein, pour la réduction des déchets, etc., et d'une optimisation du tri poursuit, on voit bien que le minerai de déchets va se tarir progressivement et qu'on va être obligé de mettre autre chose. Donc du coup, on va mettre en place une filière bois à l'échelle du département. Et donc, il y a un autre, également mettre en place un dispositif qui s'appuiera sur la biomasse et des procédés de méthanisation. Et toujours en s'appuyant sur l'actionnariat actuel, ancien, de la SEM qui gère les déchets, le réseau de chaleur. Voilà. Il y a des constructions comme ça qui fait qu'on réinvente l'eau chaude, mais sur des bases existantes. Quoi. Et donc, malgré les efforts accomplis, les incertitudes juridiques, les montages capitalistico-institutionnels sophistiqués, il faut bien convenir que les ressources en matière de production locale sont extrêmement limitées. C'est-à-dire que Nagloom ne se paiera jamais une centrale nucléaire, il n'y a rien à faire. Je veux dire, et une centrale. Donc une centrale EDF, ça produit à peu près 500 MW, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Et le réseau de production électrique brestois optimisé que je vous ai décrit, ça arrivera péniblement à 40 MW pour la production de chaleur et 5 MW pour l'électricité. Donc là, on voit qu'on n'a pas d'échelle. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on comprend vraiment bien les bénéfices de l'approvisionnement d'une énergie qui est décorrélée du prix du fioul. Parce que c'est ça qui est intéressant. En gros, c'est moins d'un quart du mix du prix de la chaleur qui est corrélé au fioul. Moins d'un quart du mix du prix du fioul. Donc le réseau de chaleur, c'est pas seulement un outil énergétique, c'est surtout un outil social. Parce que, par exemple, les locataires du parc social qui sont chauffés par le réseau de chaleur, ils sont assurés d'être chauffés quel que soit le prix du pétrole, à un prix qui reste abordable. Moins de précarité énergétique. Bon, ça c'est un intéressant. Puis on comprend surtout quel formidable outil de partenariat renouvelé, de cohésion territoriale, il est, ce système de production énergétique. En fait, ces outils, en somme, ils sont là pour développer, structurer un territoire autant que pour résoudre les problèmes énergétiques. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un rapport des sénateurs Claude Belot et Jean-Marc Julliard en 2006 qui s'intitule « Énergie renouvelable et développement local, l'intelligence territoriale en action ». C'est bien de ça dont il s'agit. Ce sont des outils d'intelligence territoriale. Et ça résume parfaitement les propos que je viens de tenir. Donc, je parle pas d'éolien parce que, par honnêteté, je me suis interrogée sur l'ensemble du panel des énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est pas. Des éoliennes dans une grande agglo, on peut pas en mettre dans le périurbain. C'est l'acceptabilité sociale est nulle, ce genre de choses. L'hydrolien, c'est toujours au stade de la recherche et développement. Donc, c'est un enjeu industriel qu'on presse, mais c'est pas du tout un enjeu en termes de production énergétique. Ça, pas du tout. Alors le constat est amer, mais il est incontournable, c'est pas avec la production énergétique locale, notre réseau de chaleur, etc., qu'on va... parce que ça fonctionne que pour le chauffage urbain de la partie dense. Et or, le problème, on l'a rappelé, c'est pas la partie urbaine dense, le problème. Le problème, c'est le périurbain. Mmh. Donc du coup, c'est pas comme ça qu'on va faire le facteur 4 sur notre territoire. Même si on le veut, je veux dire. Donc même en conjuguant le soutien national par les tarifs, les capacités de projet d'une grande agglo, le partenariat public-privé, la production d'énergie locale, elle n'est pas à la hauteur du défi énergétique. Ça, c'est clair et net. Par contre...
Attends, c'est moi. Vas-y.
Time's out, non. Par contre, l'autre grand champ de compétences, là j'en ai terminé avec la production énergétique, c'est la maîtrise de la demande en énergie. Donc là, on retombe sur nos problématiques d'aménagement. La maîtrise de la demande du besoin, la maîtrise de la demande énergétique. Donc ça, on a bien reconnu tous le rôle de l'urbanisme dans l'action contre le changement climatique et le concept d'éco de quartier, aujourd'hui, je pense qu'il fait naturellement partie du vocabulaire des aménageurs, etc. En gros, c'est pas les extensions urbaines et la construction neuve en grandes opérations. Je parle des grandes opérations publiques d'aménagement. C'est pas ça vraiment qui pose problème. Si on ne sait pas tout à fait faire aujourd'hui, on sait presque faire et quasiment, et demain on saura faire, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Il n'y a pas aujourd'hui un projet d'extension urbaine dans une agglo digne de ce nom qui ne soit pas développement durable. Enfin, j'en connais pas. Franchement, donc.
C'est parce que tu n'es jamais allé à Aix-en-Provence.
Ouais, peut-être. Hein. D'accord.
Excusez-moi,
Oui, voilà, bon, d'accord. Mais aujourd'hui, les professionnels de l'urbanisme, les professionnels de l'architecture, les professionnels de ce que vous voulez, de la construction, ils peuvent nous dire aujourd'hui, et nous dire, on vous garantit une sobriété énergétique relativement satisfaisante. On a vu qu'elle n'était pas complètement, mais relativement satisfaisante, pour un éco-quartier bien conçu. Alors, ce qui soucie l'élu local, c'est moins la performance énergétique de ces quartiers que la complexité de l'élaboration, de la mise en œuvre du projet urbain dont il procède. En fait, c'est ça qui soucie plus l'élu local. L'élu local, il dit au bout d'un moment, il faut savoir faire avant les règles. Mais le problème, c'est quand même la complexité d'élaborer un projet urbain qui lie déplacement, localisation et coût des logements. Parce que c'est ça le...
C'est ce qu'a dit Laponche. C'est exactement la question de Laponche.
Voilà. Et donc, moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas expert, mais mon vécu d'élu local de terrain, c'est celui-là. Il rejoint la remarque, alors que je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais c'est vraiment ça.
Tu as fait une contribution là-dessus, non, il me semble. J'ai vu passer des bouts de texte.
Plus ou moins, oui. Plus ou moins.
Donc on pourra te lire.
Voilà. Donc, densifier, c'est pas trop... on parle beaucoup de densification, en fait, ville dense, machin, etc. Densifier, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est d'agir sur le marché. C'est de reprendre la main sur le marché. Ça suppose plein de choses. Ça suppose une stratégie qui va au-delà de la planification. Parce que bien sûr, il faut la planification, mais il faut la maîtrise foncière. Et il faut aussi rendre les nouvelles formes urbaines désirables aux yeux des acheteurs. Effectivement, Bouygues fait des maisons basse consommation, pas chères, etc. C'est des cubes, c'est horrible. Ça ne se vendra jamais. Soyons clairs.
Si ça se vend.
Ça ne se vendra pas.
Ça se vend, sinon...
Moi, j'ai rencontré Gabilla,
Il a fait des boîtes, on les a volées.
Et puis surtout, ça...
C'est quoi cette histoire? Ça vous fait penser à l'histoire des pantalons qui n'ont qu'une seule jambe?
C'est
pour vendre, c'est pas pour porter. Il y a les maisons pour vendre et les maisons pour habiter, c'est pas les mêmes, quoi. C'est ça que tu dis?
C'est plus complexe que ça. C'est pas parce qu'on met sur le marché un produit qui économiquement, énergétiquement, etc., est raisonnable et conforme dans les normes, que les gens vont l'acheter et qu'on va infléchir la stratégie de localisation des logements.
Frédéric, il va falloir conclure, je pense.
On peut toujours essayer de produire des beaux écoquartiers, etc., si on n'agit pas sur la spéculation foncière, si on n'agit pas sur les mécanismes qui permettent de reprendre la main sur le marché, ça ne marche pas. Voilà. Et notamment, il faut aussi agir sur ces histoires de défiscalisation, qui sont une aberration totale, parce qu'elles conduisent à mettre sur le marché des logements qui ne correspondent à aucun besoin, sinon des besoins économiques, fiscaux, de propriétaires qui ne sont pas occupants, et qui ne contribueront pas au projet de territoire. On a eu tant de mal à travers des PLU, etc., faire émerger l'acceptabilité, etc. Donc voilà. Et puis encore juste un mot sur l'artisanat. Voilà, le local, il s'interroge vraiment sur l'économie de la rénovation qui est entièrement aux mains des artisans. Parce qu'à part faire plaquer or les robinets de la maison du Trésir du plombier, parce que chez nous, la station balnéaire, c'est le Trésir, donc les gens qui ont de l'argent dans une maison de Trésir, ou faire renouveler son 4x4, pour l'instant, les politiques fiscales d'incitation à la rénovation du logement, elles ont produit que ça comme effet. Renouvelé par le 4x4 des artisans, parce que ça n'a eu aucun effet réel sur la rénovation du bâti existant. Ils ont posé des pompes à chaleur n'importe comment, qui ne correspondaient pas aux besoins. Voilà, donc ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, les collectivités locales qui se disent on s'organise dans ces énergies, elles sont en train de se dire... On est déjà beaucoup à contribution sur le renouvellement urbain. Quelque part, alors on ne va pas dire qu'on sait faire, mais on commence à avoir des méthodes, on commence à avoir des outils. Notamment sur Brest, ça se fait au travers des salles de portage immobilier. On fait des opérations programmées de d'amélioration et de rénovation de l'habitat, donc du parc privé. Parce que les bailleurs publics, suivent trop d'argent, ils y arrivent. Mais après, le parc privé, c'est la décision des copros. Où c'est l'insolvabilité des propriétaires occupants. Donc comment on fait? On rachète, on rénove, on revend. Donc portage immobilier, on fait aussi, on fait en sorte que les politiques de délégation, la délégation des aides à la pierre qu'on a, on la flèche sur les opérations de renouvellement ou d'accession de logements sobres énergétiquement, etc. Ce serait un peu long à vous décrire, mais une véritable politique de l'habitat qui est conçue avec les acteurs locaux, y compris les privés, ça va dans tous ces segments-là. Ça va de la maîtrise foncière, de l'EPF, au fait qu'on fasse de l'extension urbaine plutôt dans des opérations publiques avec des logiques de sous-ensemblier de nos privés, des principes d'aménagement d'îlots mixtes, c'est-à-dire au lieu de dire voilà la forme urbaine, le cube avec le machin, non, c'est voilà, organisez-moi le développement durable, c'est-à-dire la mixité à l'échelle de l'îlot, c'est-à-dire à l'échelle de l'îlot vous allez avoir du lot libre, du logement social locatif, de l'accession avec toutes les formes de financement et public et privé possible, et mettez-moi les banques derrière, et surtout c'est de dire une politique de l'habitat durable c'est de dire on définit ensemble tous les ans qu'est-ce que c'est que le coût abordable. Et tous les logements qui sont produits sont en coût abordable sur le marché.
Alors, effectivement, là tu pointes une lacune de notre débat. C'est vrai qu'on n'a pas du tout réfléchi économie des opérations de promotion, etc., alors que c'est une des questions. C'est pas simplement au niveau du logement que ça se passe, c'est au niveau de l'opération et donc le bilan de l'opération qu'on peut faire. Et on a... Tu le pointes in fine, cette affaire-là.
Ce que je pointe in fine, c'est qu'on part de... On s'interroge sur l'énergie pour répondre à la question. Oui, on sait faire aussi, mais c'est pas ça le problème. Le problème, mais par contre, ça nous donne des enseignements sur la gouvernance de la gestion complexe d'un problème complexe. Donc, et ça nous permet d'aborder d'autres questions, comme celle du croisement des enjeux, une politique de l'habitat. Donc, une politique de l'habitat, ça se pense avec les déplacements, forcément, etc. Ça nous donne des outils, des armes et la confiance des acteurs locaux pour réfléchir à d'autres problèmes compliqués. Et donc, par exemple, d'imaginer qu'on puisse confier à une SEM le diagnostic de l'habitat privé sur un quartier, par exemple, la commande publique. Il faut changer toutes les fenêtres. Imaginons, voilà, on sait qu'il y a 5 choses à faire pour rénover le bâtiment ancien. On le sait maintenant, je veux dire, la connaissance est là. Il faut isoler, il faut changer les fenêtres, il faut ventiler. Et il faut produire la chaleur, enfin changer éventuellement la production de chaleur, et éventuellement produire soi-même une partie d'énergie, de l'électricité qu'on consomme.
Et il faut conclure.
Voilà, il y a 5 choses. Voilà, dans cet ordre-là. Non, mais c'est pour dire que. Donc, on pourrait imaginer que la SEM et toute la relation particulière porte le risque financier et fasse les appels d'offres publics auprès des industriels. Ce qui permettrait en fait d'éviter la case piégeuse de l'artisan. Qui n'a pas les moyens économiques non plus, ni de se former, ni de porter le risque économique, ni de matériel. Voilà. Par exemple, ça pourrait être...